Bonjour, c'est Alissa Cooper qui parle. Il est midi 1 et on a beaucoup de travail à faire, donc je pense qu'on devrait commencer directement. J'espère que tout le monde sera connecté. Je vois que Alice est prête à faire l'appel. Donc, l'idée était de voir les noms des personnes qui étaient connectées à cette réunion sur Adobe Connect. On ne va pas faire l'appel complet, c'est juste voir qui est connecté. On vérifiera la liste à la fin de l'appel pour vérifier si on a oublié de nommer quelqu'un qui était connecté à cet appel. Je voudrais savoir quels sont les participants à cette réunion du ICG qui ne sont pas connectés sur Adobe Connect également. Donc si vous n'êtes pas connecté, faites-le nous savoir. Dites votre nom, s'il vous plaît. Bonjour, c'est Heather Dryden qui parle ici. Je me connecterai sur Adobe Connect dans quelques instants, mais je ne suis pas connectée. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui n'est pas connecté sur Adobe Connect? Milton Miller prend la parole. Oui, je suis dans la réunion, mais je ne suis pas incluse dans les notes. Je vois que vous notez les assistants, je ne suis pas sur votre liste. Et voilà, me voilà. Russ Mundy prend la parole, pareil que Milton. Je ne suis pas sur la liste. Et Daniel Karenberg prend la parole. C'est pareil pour moi. Bien, je pense qu'on a la plupart des participants. Cependant, on mettra à jour cette liste à la fin de l'appel, en tout cas. On vous remercie d'avoir rejoint cet appel. Il est 5 heures du matin chez moi, donc ce serait bien si tout le monde pourrait parler doucement. Comme Alice et moi avons sur la liste de diffusion, on s'occupera des fonctionnalités de la réunion sur Adobe Connect. On s'occupera également de la queue d'intervenants. Donc si vous voulez prendre la parole, levez la main pour entrer dans la queue. Si vous n'êtes pas sur la réunion, si vous n'êtes pas connecté à la salle Adobe Connect, bien sûr, vous ne pourrez pas lever la main, mais faites-le nous savoir. On a 30 personnes, on a 2 heures, on a un bon nombre de points dans notre ordre du jour. Donc je vous demanderai d'être bref et direct. L'idée est que tout le monde ait la possibilité de pouvoir contribuer. On commencera à travailler aujourd'hui avec les présentations des personnes qui n'ont pas participé à notre réunion de Londres, afin que tout le monde se connaisse. Donc on leur donnera la possibilité de se présenter, de dire où ils travaillent, qui c'est qui les a nommés, comment ils ont été élus. Et si c'est la CAN qui finance leur voyage ou pas. Donc si vous n'étiez pas à Londres, s'il vous plaît, on vous invite à vous présenter. Ou alors, si vous n'êtes pas, si vous êtes sur l'appel et vous n'étiez pas à Londres, alors allez-y, présentez-vous. Bonjour, c'est Jen Dier du Brésil qui parle. Alissa Cooper prend la parole. Merci, Jen Dier. Jen Dier qui reprend la parole. Bonjour à tous. Je voulais exprimer à quel point je suis contente d'avoir rejoint cet appel. Je suis le représentant pour l'Amérique latine et les Caraïbes. Donc, je me présente. Je travaille au Brésil dans le secteur depuis l'an 2000. J'ai travaillé au ministère au Brésil et avec l'Association pour la gouvernance brésilienne. J'ai été nommée par le GAC pour participer ici. J'étais ancien membre et représentant d'autres secteurs et donc j'espère pouvoir donner de l'équilibre aux discussions, vous donner d'autres points de vue et garantir que l'industrie soit bien représentée. On comprend le travail donc de l'équilibre des propositions et la participation des différentes communautés au ICG ne veut pas dire que le GAC ne va plus s'engager au processus communautaire. Merci. Merci. Dialisa Cooper. Je pense qu'on a également d'autres membres du GAC qui n'étaient pas présents à Londres, s'ils veulent se présenter. C'est Patrick Wallström qui parle. On lève la main, mais on attend à ce que Alyssa nous donne la parole. En tout cas, je vais prendre la parole moi-même. Alyssa Cooper, je m'excuse, vous n'avez pas vu, allez-y. Oui, donc je disais, je suis Patrick Wallström, je suis le président du SAC. J'ai été nommé pour le processus par le SAC comme Russ Mundy. Je travaille pour Neuf Noden de la Suède. On traite les serveurs racines et un DNS d'un numéro de CCTL, d'un nombre de CCTL également, pardon. Par rapport au fonds pour mes voyages, en tant que président du SAC, bien sûr, une partie de ces fonds vient de la CAN, mais je les paie également moi-même à partir de mon travail. Alyssa Cooper, merci Patrick. On a maintenant Michael Nebo. Merci, c'est Michael qui prend la parole. Michael Nebo, je travaille pour la Commission européenne. Je suis allemand et à l'heure actuelle, j'habite à Bruxelles. Je participe aux questions liées à Internet depuis les années 90 de ce dernier siècle, ce qui comprend l'ICANN et le SMSI. Je suis spécialisée en sécurité des réseaux et je travaille également pour l'Agence de sécurité des réseaux européenne. Mais le travail et les conditions pour la mise en place du TLD européen également. Les dernières politiques de la Commission européenne concernant la gouvernance d'Internet m'ont occupé également et j'ai été nommée par le GAC. Et bien évidemment, je ne reçois pas des fonds de la CAN pour voyager. Mais j'ai un soutien partiel. Je pourrais demander du soutien partiel pour l'avenir. Merci, Dialisa Cooper. S'il y a quelqu'un d'autre, veuillez bien vous présenter. Bien, Lisa Coupardier, je passe alors la parole à Joe qui va parler des nommements des présidents et de leur rôle. Merci, c'est Joseph Aladef qui prend la parole. Comme j'ai dit hier soir, le vote était complet. Alyssa a été nommée présidente à l'unanimité. Le vice-président était un poste qui a été discuté. On avait plein de candidats très qualifiés, mais les vice-présidents sont Patrick et moi-même. On remercie tout le monde d'avoir participé. On félicite les vice-présidents et notre présidente également. Maintenant, quant au rôle, Alyssa, je pense que ce serait peut-être mieux de le discuter plus tard parce qu'on a un document concernant les rôles sur lesquels les personnes ont fait des commentaires plutôt favorables. Mais concernant le processus, on discute comment atteindre le consensus. Et peut-être que le président pourrait y avoir un rôle dans la construction, le développement du consensus. Donc, je voulais m'assurer que ces rôles de président et vice-président reflètent correctement les fonctions qui pourraient être ajoutées aux différentes fonctions afin d'atteindre le consensus. Je pense qu'on était tous d'accord que ce n'était pas aux fonctionnaires ou aux différents représentants d'atteindre le consensus, mais d'avoir un consensus approximatif en tout cas. Je voulais que l'on montre cela correctement parce qu'on a senti sur la liste et à la Réunion de Londres que les rôles des différents fonctionnaires étaient plutôt administratifs et pas de prise de décision. Qu'il s'agissait de rôles, qu'ils s'occupaient de l'organisation de la réunion, de convoquer les personnes, d'animer les réunions, et qu'on avait différents points de l'ordre du jour qui devaient être capturés. Donc peut-être qu'on pourrait ne pas discuter ce point-là jusqu'à ce qu'on soit sur le document des rôles, une fois qu'on aura fini avec ce processus de consensus. Alyssa Cooper, merci. Joe, est-ce qu'il y a d'autres commentaires sur ce que Joe propose? Je ne vois pas de main levée. Et donc le point suivant de notre ordre du jour, et merci Joe d'avoir dirigé ce processus. Je suis contente de voir que tout le monde s'occupe des fonctions qui leur correspondent et de participer. On reviendra donc aux notes de la réunion. Une personne non identifiée, pardon, je voulais ajouter quelque chose, Alyssa. Pour le processus, pour ce qui était du processus, Heather a dit que le GAC ne voterait pas sur ce genre de questions, comme le consensus. Donc ce serait peut-être une question qu'on devrait répondre, que ce soit concernant le concept des fonctions, des fonctionnaires ou concernant le consensus. Et c'est que si un groupe sait qu'il ne va pas participer à une décision concernant un aspect spécifique de notre processus, devrait-on considérer si cela affecte ou pas la quantité ou le concept du nombre suffisant de personnes qui participent au processus? Parce que si on a 5 personnes qui ne participent pas ou 7 personnes qui disent qu'ils ne vont pas participer au processus, cela affecte-t-il la façon dont on espère voir des résultats ou pas? Alyssa Cooper, James. James Bladel prend la parole, merci. Oui, je voulais soutenir cette question de Joe. J'étais intriguée également par la question de Heather Thier concernant la participation et les rôles et si cela allait ou pas avoir un impact sur le résultat des discussions pour ce qui est du consensus spécifiquement et si on devrait considérer ces décisions comme des abstentions pour les processus de prise de décision ou pas. Je ne voudrais pas mettre Heather en évidence, mais peut-être qu'elle pourrait nous expliquer un peu plus ce qu'elle a dit hier et comment elle comprend la participation des délégués du GAC aux différentes activités. Alyssa Cooper, merci James. On demandera à Heather de nous expliquer cela plus tard. Jean-Jacques n'a pas l'audio connecté en ce moment. Et il voulait faire un commentaire concernant le vote obligatoire, mais on reviendra à cette question plus tard dans notre ordre du jour avec le vote obligatoire. Donc on va essayer de résoudre ces problèmes audio pour Jean-Jacques. Et j'en prends note. Est-ce qu'on a d'autres commentaires concernant ce point-là avant de continuer? Bien. Alors, le point suivant de notre ordre du jour, que vous avez sur l'écran, est la charte. On a 4 documents qui ont été envoyés. On a les procès-verbaux de notre première réunion en personne à Londres. C'est Samantha qui a pris ses notes. Et on a également un document avec des informations sur nous-mêmes. On a eu ces documents disponibles depuis un bon moment, donc j'espère voir si quelqu'un a des commentaires à faire concernant ce document. Autrement, on pourrait demander au personnel de la CAN de les publier sur leur site web. Alors, y a-t-il des commentaires concernant ces 4 documents? Quo? Quo Wei-Wu prend la parole. Je ne vois pas mon nom sur le procès-verbal, là, sur le rapport. En tant que liaison. Sur la liste des liaisons, vous n'avez que Élise. Mon nom n'est pas là. Pardon, dans quel document dit Alyssa Cooper? Quo Wei-Wu? Sur ce qu'on a sur l'écran, vous voyez? Ah, pour l'appel de juillet, tiens. C'est noté. On demandera à Alice de vous ajouter à la liste. Rosemondy? Rosemondy prend la parole. Oui. Dans le document qui est une matrice, il faudrait ajouter que je vais demander des fonds de la CAN dans la partie finale, dans la remarque finale. Alyssa Cooper, merci. Samantha, prenez en note, s'il vous plaît. D'autres commentaires? Oui, Mohamed. Mohamed El Bachir, merci, Alyssa. Je voudrais bien comprendre ce que vous proposez. Vous nous demandez donc de faire nos dernières remarques concernant ces discussions, ces documents qu'on a discutés lors de cet appel. Alyssa Cooper, oui, c'est bien ça. On a donc le procès-verbal, la transcription de l'appel, et on a des procès-verbaux des 2 jours de réunion de Londres et la matrice. Mohamed El Bachir, merci. Joseph Aladef prend la parole. Oui, je voulais faire un éclaircissement, c'est que je pourrais demander des fonds à un moment donné, donc je voulais que l'on corrige cela. Et d'autre part, je dirais que bien que nous allons représenter l'ICC, on s'engage également à sensibiliser des communautés qui ne font pas partie du ICC, mais avec qui on a des rapports pour qu'ils soient informés du processus. Donc on voudrait que cela soit ajouté aux documents également. Merci Joe, dit Alyssa. D'autres marques? Bien, alors Alice et Samantha vont faire ces modifications et nous allons publier ces documents sur le site web. Donc on vous remercie tous de ces commentaires que vous avez faits. Maintenant, le point suivant est le processus de consensus, le processus consensuel. Et je donne maintenant la parole à Wolf Ulrich. Oui, c'est Wolf Ulrich qui prend la parole. Vous m'entendez? Alyssa Cooper? Oui, on vous entend. Wolf Ulrich? Donc, sur le point numéro 2, on voit les lignes directrices. C'est un document sur lequel on a travaillé. Il est possible Alicia Cooper, pardon, on vous entend pas très bien. S'il vous plaît, pourriez-vous parler un peu plus fort? Vous m'entendez mieux? Oui, c'est mieux, dit Alicia. Bof, Orich, bon, je voulais alors discuter avec vous autant que possible le processus consensuel. Et j'essaie d'ajouter autant que possible les différents commentaires que vous avez faits, que vous m'avez fait parvenir. Mais il reste des questions principales, fondamentales, qu'il faut que l'on discute. Je vous rappelle tous que cette version préliminaire a été préparée sur la base des discussions des lignes directrices du groupe pour atteindre le consensus ou pour la prise de décision. Et la possibilité d'atteindre le consensus aujourd'hui est essentielle. Donc on a préparé cette version préliminaire. On a donc des lignes directrices pour les aspects liés à la prise de décision. On a des recommandations qu'on a ajoutées. À la génération, on parle de recommandations de base et on établit d'abord les différents types de consensus. Le consensus plein, le consensus approximatif. Donc on a fait des commentaires sur la liste concernant ces types de consensus. On a un consensus qui est en fait déclaré être un consensus approximatif et un consensus plein. Donc pour le consensus qui est déclaré consensus, on va l'appeler recommandation par consensus. Ça veut dire qu'il n'y a pas un consensus à 100%, mais qu'il y a plutôt une recommandation qui serait la décision minoritaire qui devrait être extraite des discussions. Et on devrait donc établir une ligne qui établit cette différence justement entre les différents types de consensus. Ça pourrait être par la quantité de membres qui ont voté, donc par numéro, ou pour ce qui est des politiques. Si ce sont des questions spécifiques de différents groupes ou de différentes parties prenantes spécifiques, ou alors pour voir comment on peut aller de l'avant sur la base des discussions que l'on a eues. Et puis d'autre part, on devrait passer donc à la page numéro 2 pour continuer notre discussion ici. Voilà. Donc on a la méthodologie pour la prise de décision, pour laquelle on a deux propositions. Au début, donc du point, on a ce qui est proposé et puis l'alternative. Donc je comprends ici que la différence serait principalement la différenciation des différentes questions pour lesquelles on a des propositions et des alternatives proposées. Pour laquelle, donc on a des personnes qui s'opposent et pour lesquelles on a des exceptions. Il faudrait voir. Ce qu'on aurait gardé pour ce document. Donc, le principal, et de trouver qui c'est qui va agir pour ces genres d'institutions. Et on devrait décider autant que possible ces questions sur la liste des finances sans désigner personne, mais les conclusions donc devraient être atteintes lors des réunions, que ce soit en personne ou par téléconférence. L'idée, je le répète, est d'avoir simplement des discussions sur la liste de discussion et pas des décisions. Normalement, il est nécessaire d'avoir la majorité des membres du groupe pour ces réunions et autant de représentations des différents groupes de parties prenantes que possible. Donc on a par exemple, différentes groupes de parties prenantes ici, liées aux différentes industries, par exemple, aux différents secteurs. Il devrait y avoir un certain niveau de représentation de chaque groupe de parties prenantes que possible. Donc, on essaiera maintenant de passer à la discussion, si nous semble correct. J'ai Paul Wilson dans la queue, dit Alyssa Cooper, ou alors c'est vous qui voulez gérer la liste d'intervenants. C'est Paul Wilson qui prend la parole. Je n'ai pas très bien compris pourquoi on a cette version préliminaire du document et pas la version 3. La version 3, moi, j'avais ajouté mes commentaires. Donc je proposerai peut-être de modifier la rédaction des points que je vous avais fait parvenir pour la partie des commentaires. Ça suscitera sans doute moins de discussion. Mais je ne sais pas si je devrais ajouter mes commentaires à la version 2. C'est ça ? Wolf Ludwig prend la parole. Prend la parole. Oui, moi, j'ai envoyé cette même version dont vous parlez, mais je vois pas, c'est pas ce que je vois sur l'écran, je sais pas pourquoi. Allez, ça, pourriez-vous nous confirmer si vous avez bien reçu la nouvelle version? Vous avez la main levée? Oui, pardon, non, c'est Alice qui partage en ce moment le document. Pas moi, et Alyssa Cooper. Donc je ne sais pas très bien ce qu'elle affiche sur l'écran. Alyssa, ça me prend la parole. Je viens de partager les fonctions de contrôle du document, donc vous pouvez vous déplacer vous-même, Alyssa Cooper, mais c'est bien la version 3 du document que vous affichez. Alyssa, oui. Alyssa Cooper, alors c'est la version 2 ou la version 3 qu'on a? C'est la version la plus récente, dit Alice Jensen, ce que Wolf Ulrich m'a fait parvenir.
Merci. Oui, vous êtes en train de projeter la version 3.pdf, alors que la version 3.doc est dans le dossier Dropbox auquel j'ai accès. Oui, vous l'avez ajouté il y a près d'une heure maintenant. Bien. Wolf au micro. Wolf Ulrich. Donc, la dernière version est à l'écran. C'est ce dont on parle. Donc, j'aimerais vous dire que si vous avez des commentaires sur cette version, n'hésitez pas à les faire. Peut-être qu'il y a un chevauchement par rapport à la version 2. Mais ce n'est pas un problème. Oui, ou peut-être, allez-y en son micro, peut-être que vous pourriez simplement faire vos commentaires. Oui, en fait, c'est une nouvelle proposition de réaction. Donc, la proposition alternative, c'est de voir la structure et d'ajouter en termes de précision la dernière partie concernant l'ICG, la structure de l'ICG. Une petite minorité n'était pas d'accord par rapport à cela et j'ai proposé une nouvelle version qui me paraissait assez ambitieuse. C'est en fait la définition américaine des conditions requises . Bien, merci. Je vais le prendre en considération. Dit la nouvelle personne qui prend la parole, Milton Müller, au micro, semble-t-il. Point suivant, Joe au micro, Alice au micro. Oui, je suis également dans la queue, je souhaite intervenir après, mais Milton souhaite intervenir d'abord. Pouvez-vous m'entendre? Milton Müller au micro. Tout d'abord, vous ne devriez pas être surpris par le fait que les gens n'aient pas encore eu le temps de voir cette nouvelle version puisque vous l'avez téléchargée il y a une heure. Par rapport à la proposition qui a été faite, je crois que cette proposition permet également de simplifier la rédaction, mais je ne suis pas sûre de vouloir dire, même si je suis en faveur de l'idée d'un groupe au sein de l'ICANN, je ne suis pas sûre que je serais prêt à dire à 100% que ces membres devraient être appelés à parvenir à une conclusion. Donc, si tout le monde n'est pas d'accord avec une solution en particulier, il ne s'agit pas pour autant de la supprimer. Mais l'idée que l'ICG doit être aussi transparent que possible est bonne. Et la seule chose que je pourrais dire à Wolf, c'est que peut-être qu'on pourrait modifier cette rédaction dans le sens de dire modifier pour que ce soit acceptable pour tous. Identifier, non pas modifier. Merci, Milton. J'aimerais comprendre. En fait, vous êtes d'accord avec la proposition de Martin. Donc, vous suggérez de garder la rédaction précédente. Oui, la nouvelle rédaction que nous avons sur Adobe, plutôt que la rédaction initiale, est meilleure. Donc on pourrait modifier cette proposition pour qu'elle soit acceptable et pour modifier et revenir donc à la rédaction précédente. Merci. Joseph? Joseph Aladef au micro. Oui, merci. Ma préoccupation porte sur le fait que je n'ai pas de problème pour dire que la communauté de clients ou la communauté opérationnelle a un rôle particulier à jouer, une place particulière à occuper et qu'elle doit participer par rapport à la participation de ses participants au sein de notre groupe et que tous les membres de la communauté ne font pas partie de notre groupe, mais que les représentants de cette communauté font partie du groupe. Donc je comprends parfaitement pourquoi cette communauté doit jouer ce rôle. Ma préoccupation est la suivante. Lorsqu'il y a de plus en plus de décisions, qu'il s'agisse de faire appel à une minorité, il existe la possibilité qu'un petit groupe puisse être représenté, ou puisse représenter la majorité des utilisateurs finaux, commerciaux et non commerciaux. Parce que du point de vue numérique, la représentation n'est pas la même et déséquilibrée. Et si une grande partie d'un groupe a une préoccupation particulière, alors c'est un problème aussi au niveau du consensus lorsque cette décision est acceptée au niveau plus général. Donc il faut trouver une solution pour que cette organisation ne soit pas prise en otage, qu'il y ait des groupes de représentants qui soient limités ou petites et qu'il y ait des groupes plus grands, mais il faut trouver une solution pour pallier ce problème. Et c'est une solution qu'on n'a pas encore trouvée. Je suis désolée d'admettre que je ne sais pas quelle est la solution à ce problème. Donc, il faudrait peut-être revoir le pourcentage de représentativité. Combien d'organisations font partie du consensus ? Peut-être que de cette manière, on pourrait trouver une solution à ce problème. Merci, Joe. Alors, par rapport aux commentaires de Jean-Jacques, j'aimerais reprendre donc ce qu'a dit Jean-Jacques sur le chat au fin de la transcription. L'un des problèmes essentiels consiste à trouver et mettre en place des conclusions efficaces. Et est également lié au rôle spécifique de la communauté ou des parties prenantes, ou qui que ce soit. Donc, si vous regardez il y a 13 représentants de ERSAC, GNSO, etc., qui joue un rôle particulier et combiné. Et là, je parle du CCNSO, du GNSO. Et donc, il serait utile de trouver un moyen de permettre à ces groupes d'avoir un rôle spécifique. Donc ça, c'est pour reprendre le commentaire de Jean-Jacques sur le chat. Jean-Jacques ? Oui, Jean-Jacques Subrenin au micro. Pouvez-vous m'entendre ? Merci. Jean-Jacques Subrenin au micro, donc. Deux commentaires. Je crois que c'était Joe, je ne suis pas sûre, parce que les noms n'ont pas été annoncés au début des interventions. Donc Joe, me semble-t-il, proposait des groupes représentés. J'ai peur que cela nous mène à une faiblesse par rapport aux positions exprimées. Il faut revenir à l'idée selon laquelle un certain nombre de membres de l'ICG ont été nommés. C'est ce qui compte, dans le fond. Toute l'idée des consommateurs, des clients et des communautés est importante du point de vue des entités opérationnelles, bien entendu. Mais je ne saurais le souligner suffisamment, il ne faut pas pour autant éliminer ou biffer d'autres éléments importants dans notre groupe, c'est-à-dire l'utilisation de la communauté. Ça, c'était mon premier point. Deuxième point, par rapport aux gens qui figurent à l'écran, ou au texte, pardon, qui figure à l'écran, et j'aimerais voir le point 4 par rapport à la méthodologie. Il s'agit de la partie intitulée « Principes », deuxième paragraphe, qui porte sur le fait que toute forme de votation, etc., j'aimerais inclure ici un texte disant qu'un membre de l'ICG peut demander qu'un vote ait lieu sur un thème quelconque ou quelque chose de ce genre. Parce que il ne s'agit pas de dire simplement que le vote n'est pas une bonne chose. Le vote est une bonne chose. Et pourquoi je le dis ? Parce que dès le début de nos travaux conjoints, j'ai demandé à ce que le vote soit installé sur un nombre limité de questions. L'une consistait à décider de la structure de la présidence. Cela, on l'a réglé. D'ailleurs, j'en profite pour féliciter les personnes qui ont été élues. Mais il peut encore exister des cas où il serait beaucoup plus clair d'organiser un vote. Tout le monde a l'obligation de participer au vote, peut dire oui ou non, ou s'abstenir. La personne qui s'abstient décide de fournir ou non une explication à son abstention. Donc, c'est ma proposition d'ajout sous le point principe. Merci beaucoup, Jean-Jacques. Je crois que nous n'avons plus beaucoup de temps à consacrer à ce point, mais Alissa voulait intervenir. Par rapport à la proposition de Martin Boyle, on pourra peut-être après y revenir et poursuivre pour l'instant la liste de nos points à traiter. Martin Boyle au micro. Oui. Il y avait une liste de personnes qui souhaitaient intervenir et qui ont patiemment attendu leur tour. Alissa voulait intervenir d'abord. Martin Boyle au micro. Merci beaucoup, Alissa. Alors, tout d'abord, parce que j'ai suggéré l'ensemble de principes initiaux, j'ai souhaité intervenir. Et je suis satisfaite de la proposition de rédaction. D'ailleurs, j'en profite pour remercier Milton d'avoir fait référence à l'importance de parvenir à une certaine forme de consensus en identifiant la manière de trouver des modifications qui soient acceptables pour tous et l'inclure dans la version finale. j'étais assez réticent à l'idée de finir par être obligé de voter lorsqu'il y a un équilibre délicat entre différentes positions. Pourquoi ? Parce que finalement, on a au bout du compte des perdants et des gagnants. Et la majorité gagne. Et donc, certains ne sont pas pris en compte et on ne peut pas atteindre un bon équilibre. Cela étant dit, l'idée selon laquelle on peut parvenir à un accord, oui, effectivement, je crois que c'est une manière de dire bien. Il y a des sauvegardes, mais revenons au fait que je préférerais de loin ne pas le faire parce qu'il y a de très bonnes raisons, ou le faire seulement s'il y a de très bonnes raisons. Ou si la présidence, la présidente et les coprésidents souhaitent le faire. Donc voilà les commentaires que je souhaitais faire par rapport à cette question. Merci Martin. Alors, est-ce que vous pouvez baisser votre main? Alice, au micro. Oui, je vais réserver mon commentaire pour plus tard. Donc, je vais baisser la main. Si vous avez besoin d'avancer, nous avions la question précédente de Heather par rapport au GAC, au vote. Donc, il serait important d'écouter son point de vue, son commentaire, son intervention, avant de passer au point suivant. Merci, Heather. Heather au micro, merci beaucoup. Je serai très brève. Par rapport à ce point, d'un point de vue général, je crois que le GAC a été hésitant par rapport à cette question du vote. Et je parle d'une manière générale. Et l'idée du point de vue gouvernemental, c'est de se concentrer sur le consensus, de travailler sur la base du consensus. Et on entend des commentaires sur l'accent qui doit être mis sur le fait de travailler vers un consensus et sur ce processus. Donc, du point de vue général, c'est ce sur quoi nous souhaitons nous concentrer pour parvenir à des décisions par rapport à ce travail sur le consensus. Puis, plus spécifiquement, par rapport à la question de ce que j'appellerais une question plus précise ou pointue, processus pour élire tel ou tel candidat. Si vous votez sur une question très pointue, il est probable que les participants du GAC qui se sont proposés de participer à l'ICG vont pouvoir voter. Lorsque nous avons eu notre réunion à Londres, les personnes qui sont proposées du GAC n'étaient pas là pour exprimer leur point de vue. Et donc, Cela nous ramène à la question de voter sur une question particulière ou spécifique. Par rapport à la question spécifique du consensus, il est possible que le groupe de contact et que les participants de l'ICG du GAC et que le leadership du GAC doivent transmettre un point de vue, et il est possible qu'il existe plusieurs options ou des points de vue particuliers exprimés, en tout cas plus d'un point de vue, plusieurs points de vue au sein de l'ICG. Mais je crois que ça, c'est quelque chose de positif. Et ça nous permet d'avoir davantage de contributions sur des questions de fond. Le GAC engage les gouvernements individuels, mais également les personnes. Et donc, cela étant dit, il est clair qu'il y a des gouvernements individuels qui souhaitent participer ou transmettre leur point de vue. Et on a une discussion sur les commentaires publics qui peut vous être transmise. Pour ma part, j'ai trouvé cela très utile d'écouter les commentaires de Joe et la question posée par rapport à son commentaire. On en a bien pris note. Et le fait que les participants du GAC vont exprimer leur point de vue ou ne vont pas participer au vote, sachez qu'ils vont faire leur possible pour expliquer les raisons de leur vote, parce que l'idée, c'est de contribuer au débat. Merci. Merci beaucoup, Heather. Wolf Ulrich au micro. J'aimerais revenir sur un point souligné par Alyssa Cooper. Nous aimerions avoir une base claire pour savoir vers où nous allons. Si vous essayez de trouver un consensus, la question est de savoir qui comment parvenir à une conclusion. Ça, c'est la première chose. Ensuite, savoir comment le vote ou la manière d'exprimer son point de vue va être géré. Ça doit être préparé dans le document d'une manière un peu plus claire ou organisée. Ça, d'une part. De l'autre, s'agissant du vote ou du sondage, quel que soit le nom que vous lui donniez, que les gens préfèrent l'une chose ou l'autre, devons-nous définir ces cas ou pas? Et j'aimerais aussi souligner cela, et un point qui a été évoquer, peut-être l'ajouter sur cette liste. Alyssa. Alyssa Cooper au micro. Merci beaucoup, Wolf. Je crois que ça a été une discussion très productive. On va pouvoir résumer toute cette discussion la reprendre et passer au point suivant. On n'a plus beaucoup de temps à dédier à cette question. Peut-être qu'on peut répondre à certains de ces points sur la liste de publipostage. Je sais que certains doivent prendre leur avion pour aller en Turquie d'ici la semaine prochaine, milieu de la semaine prochaine, pour dire leur point de vue, faire des suggestions, en ayant tout cela présent à l'esprit. Moi, pour ma part, j'ai fait des suggestions et j'aimerais voir quelles sont les suggestions des autres d'ici la semaine prochaine. Alors, passons maintenant à la discussion sur la charte. Bien, je vais vous présenter ce document, dit la personne au micro. Jari. Jari Arco. Alors, j'ai étudié tous les commentaires, mais si j'en ai oublié, n'hésitez pas à me le dire. Alors, je les ai divisés par catégorie. Puis, j'ai indiqué les quelques commentaires qui, de mon point de vue, étaient plus liés à des solutions d'ici l'année prochaine plutôt qu'à la charte en elle-même. Donc, si vous regardez la deuxième, à l'avant-dernière page, vous verrez les modifications dans ce document. Il y en a peu. Et ensuite, je vais vous parler d'autres questions qui, d'après moi, ne devraient pas être modifiées. Et l'idée, c'était que si vous aviez une grande objection à faire, alors il fallait penser à proposer une nouvelle rédaction. C'était ma recommandation. Maintenant, il vous revient de le faire ou pas. Mais c'était ma recommandation, effectivement. On s'est mis d'accord sur le fait qu'il fallait analyser cela. Bien, les quelques points qui figurent ici à l'écran concernent les autres contributions que nous obtenons de la part des autres communautés opérationnelles. Alors, en fait, on ne fait pas forcément grand état de ces contributions. Et l'autre point qui est apparu plusieurs fois, c'est de savoir si ces commentaires ou contributions devraient être documentés ou pas. Cela ne retire pas le poids de ces recommandations. Et ça, c'est lié au processus fondé sur le consensus. Il en va de même par rapport à certaines demandes qui nous sont parvenues, par rapport au lien avec les débats sur la responsabilité. Je je ne sais pas s'il y a un point dans la charte qui pourrait être lié à cela. Ensuite, s'il y a un besoin de mettre à jour, si une communauté a besoin de modifier ou mettre à jour sa proposition, cette mise à jour devrait être représentée à la communauté globale. Donc, pour présenter ses propositions, je crois que c'est raisonnable. Il y a eu un certain nombre de modifications en termes de forme, que ce soit quelque chose d'obligatoire ou pas. Et ensuite, un commentaire sur le fait qu'on devrait être plus spécifique par rapport à la relation entre nos travaux et ceux du groupe sur la responsabilité. Je crois que l'une des manières d'y parvenir, ce serait d'ajouter un texte où on évalue les propositions et nous indiquons que le concept général doit traiter les thèmes liés à la responsabilité. Et pas tous les aspects liés à la responsabilité, mais les aspects liés à la responsabilité qui tiennent aux fonctions IANA. Enfin, par rapport aux commentaires concernant le temps alloué aux commentaires, on a pris l'exemple du fait que la charte a été présentée il y a des mois maintenant. Mais, encore une fois, c'est quelque chose qui est en cours. Donc, c'est une bonne chose d'essayer de diviser les tâches.
Et donc, nous allons voir maintenant les modifications et les commentaires. Bien, donc voilà la charte. On n'a pas de grosses modifications ici. Vous voyez tous quelle est la première modification qui a été apportée. C'est la partie qui a les exigences de responsabilité. C'est le travail qu'on a préparé et on dit que l'ensemble doit inclure suffisamment de mécanismes à responsabilité pour pouvoir opérer la fonction IANA. Et puis, juste un peu plus bas, on dit que l'on a besoin de modifications pour la communauté et les mises à jour font l'objet de la même vérification, révision et des processus consensuels que les propositions initiales. Et puis, sur la dernière page, j'ai éliminé le mot « devrait » quant au partage d'informations. Et puis, quant au site web, on met à jour cela. Donc, voilà les commentaires qu'on a relevés. Il va y avoir d'autres modifications à faire, mais ce serait peut-être un bon moment pour voir s'il y aurait d'autres modifications à faire. Donc alors, Alissa, c'est vous qui gérez la queue ou moi ? Alissa Cooper, non, allez-y, vous pouvez le faire. Thierry Arco reprend la parole. Alors, est-ce qu'il y a des commentaires ? Est-ce qu'il faut que je fasse quelque chose pour vous permettre de prendre la parole ? Non, il devrait pouvoir parler tout simplement. Bien, on vous remercie d'avoir préparé ce document et cette présentation. C'est Yandré au micro. La représentation de ma région devrait être suffisante et je voudrais revenir sur la suggestion que le travail du ICG devrait être à travers les communautés pour ce qui est lié aux paramètres de protocole, des noms de domaine, des adresses IP. Donc, il pourrait y avoir une application de politique publique. Donc, pour ce qui est des questions opérationnelles de la fonction IANA, je pense qu'on devrait établir le ICG. Et si les opérations du ICG n'étaient pas dirigées d'une perspective générale, si ce n'était qu'une perspective technique sans le soutien gouvernemental, je comprends que la communauté du ICG est mondiale et que chacun devrait s'occuper de la substance et non du domaine. Mais on a une possibilité d'avoir des problèmes avec ces communautés. Donc, si on a des fonctions de nom de domaine pour la communauté mondiale multipartite, on devrait avoir des motivations non seulement techniques, mais aussi politiques. Et je pense qu'au moins dans mon pays, ce n'est pas le cas. On a des motivations techniques uniquement, mais qu'on devrait prendre les dispositions nécessaires, les établir pour pouvoir donner un sens plus politique aux discussions. Et je le dis parce que cet avis est compatible avec l'annonce de l'NTIA. L'annonce ne disait pas qu'il ne devrait pas avoir de gouvernement impliqué, mais plutôt que la solution devait être marquée par une forme et informé par différents gouvernements, mais par tous les secteurs. Donc voilà ce que je voudrais contribuer à la discussion. Yari Arco prend la parole. Non, je suis tout à fait d'accord avec vos remarques. Mais vous avez dit également que vous vous attendiez à travailler avec la CNSO, la GSNSO, etc. Donc, la question est si vous avez une idée spécifique de points qu'on n'a pas abordés dans la charte . Alors, est-ce que vous vouliez exprimer d'autres points de vue ? Yandré, oui, c'est un commentaire qui n'était pas du GAC, c'est un commentaire de mon pays. Et je voudrais que l'on travaille ensemble avec la CNSO et la GNSO pour pouvoir aborder ces aspects techniques. C'est ce qu'on a voulu dire à travers nos commentaires pour la charte. Merci. Yari Arco, oui, il me semble que vous pourrez le faire. Donc, on avance. Milton Müller prend la parole. Oui. Je suis Milton Müller, représentant du groupe de la CNSO. On a le commentaire, j'ai entendu le commentaire de Jandri. Et je comprends. On a différents commentaires. Mais pour ce qui est de l'intégration de ce commentaire au document en tant que modification, je suis d'accord avec ce qui a été proposé. Et donc, pour revenir à la question de la responsabilité, on comprend. Ce n'est pas le but de la charte de mettre en place un mécanisme. Donc, ce qu'on dit, c'est qu'il y a des règles, des régulations, des statuts constitutifs, et que donc... Il y a des personnes qui font des commentaires avec leurs inquiétudes. Et donc on devrait s'occuper du processus de responsabilité, de transparence. Il y a un niveau pour les propositions de la NTIA auquel on voudrait se placer. Ce sont les normes de la CAN. Mais les propositions spécifiques pour la transition IANA, la transition de la supervision des fonctions IANA et pour d'autres mécanismes et d'autres processus, ce qui me fait penser au commentaire qui a été fait tout à l'heure sur les questions de politique publique associées à la transition de la supervision des fonctions IANA. Avec la transition de cette supervision des fonctions IANA, on implique les gouvernements, ils participent aussi. Pas exclusivement, mais ils collaborent aux côtés de la communauté de la CAN, et l'idée est de pouvoir en finir avec la situation actuelle où les fonctions IANA sont gérées par un seul gouvernement. Et puis l'IETF, la membre des communautés, la CAN, ils devraient tous faire partie de cette équipe de supervision. Donc IANA ne devrait pas être une entité indépendante qui s'occupe de certaines politiques. Mais si le gouvernement brésilien est préoccupé par les politiques, et par les différentes communautés, il devrait travailler avec ces communautés qui font les politiques, qui les élaborent. Voilà. Pierre Jacob, merci Milton. James, bien, bonjour, c'est James Blaisdell qui prend la parole. J'ai une remarque par rapport à ce qu'a dit mon collègue du Brésilien, du GAC. Dans l'intérêt des politiques publiques et l'intérêt technique, je voudrais que l'on s'occupe des implications économiques et techniques également de la transition de la supervision des fonctions IANA. Ce n'est pas une question qui soit incluse dans la charte, mais cela devrait inspirer notre travail. Et donc, j'ai une suggestion à faire, j'espère que ce sera simplement une question de forme, mais c'est un éclaircissement. À chaque fois que l'on parle de reddition de compte, transparence ou responsabilité dans la charte, je voudrais que l'on ajoute l'adjectif indépendant, que ce soit des mécanismes de transparence indépendante, de reddition de compte indépendante. On abuse un peu trop de ce terme responsabilité et ça n'a plus vraiment du sens. Si on le liait à ce sens d'indépendance, qu'est-ce que donnait en fait la fonction IANA, cette indépendance de responsabilité et de contrôle, on pourrait peut-être mieux comprendre de quoi on parle. Voilà mon commentaire. Merci. Yari Arco prend la parole. Merci. J'ai une autre question à poser aux autres participants à cet appel. On a un problème avec la responsabilité en général, c'est que le type de responsabilité et les processus ou la responsabilité des fonctions IANA, qui sont ce quoi on devrait se centrer, devraient être modifiés par cet adjectif indépendant. Mohamed. Mohamed El-Bachir prend la parole. Je vous remercie de ce résumé que vous nous avez donné. Je voudrais travailler sur le document, sur la discussion gouvernementale, la discussion concernant les gouvernements que l'on a maintenue sur la liste de diffusion. Le gouvernement devrait avoir un certain niveau d'indépendance pour faire leurs propositions. Pour voir qui c'est qui devrait être choisi. Et sur la liste de diffusion, on a également discuté de la façon d'identifier, la façon donc de permettre aux autres communautés de participer. La deuxième page de la charte, on parle des tâches principales. Et on fait la différence entre les différents types de communautés. On sait bien qu'il s'agit d'une transition essentielle pour la communauté. C'est un point critique. Et leur proposition sont critiques pour le secteur technique. Donc cette partie doit être en correspondance avec le reste de la charte, particulièrement avec la soumission de propositions et de documents. Voilà donc ma remarque, et j'ai suggéré tout à l'heure que différentes communautés devaient participer au processus, mais qu'elles auraient peut-être du mal à le faire si les différentes voies de communication des communautés n'étaient pas en bon fonctionnement. Je pense que c'était Martine également qui a abordé cette question. Mais je suis d'accord, je voulais dire que je soutiens le fait qu'on devrait communiquer avec la communauté de la GNSO. Voilà, merci. Yari Arco, oui, c'est un bon commentaire. Le document V8 de la charte prévoit quelque chose d'autre. Et on devrait également recueillir et collecter les différentes contributions à mesure qu'on les reçoit pour les incorporer à la charte. Et ce que vous dites, c'est vrai, on ne l'a pas inclus. Je ne peux pas d'autre main levée à ce point-là. Alissa, alors vous voulez reprendre la parole ou vous voulez que je passe à ma liste d'autres sujets divers? Alissa Cooper, non, je pense qu'on devrait s'arrêter ici. Il nous reste d'autres points à aborder dans notre ordre du jour. Mais je ne sais pas comment vous pourriez continuer. Si vous sentez qu'on devrait peut-être avoir un résumé des questions qu'il nous reste à aborder avant de voir à quel document on passe, ou alors vous voulez apporter d'autres modifications au document. Yariarko prend la parole, oui. Il va me falloir faire une autre modification. Parce qu'on m'a proposé d'ajouter le mot indépendant. Peut-être qu'on pourrait discuter cela sur la liste de diffusion, mais si, en termes généraux, vous sentez qu'il s'agit d'une charte acceptable, autre que les modifications qui ont été discutées, on continuera à aller de l'avant, ou alors si vous sentez qu'on devrait ajouter quelque chose d'autre ou modifier quelque chose qui a déjà été inclus, s'il vous plaît, allez-y, c'est le moment de le faire. On a Joe et Paul. Ok, Joseph Aladev prend la parole. Ma question, en fait, me vient parce qu'il me semblait me rappeler qu'on avait fait mention du fait que l'un des buts était de maintenir la fonctionnalité opérationnelle de la fonction YANA, qui était un concept important pour les bénéficiaires des fonctions YANA et pour les différentes communautés techniques. Donc est-ce que j'imagine que cela était dans le document, ou alors est-ce que cela était-il inclus dans le document et a été éliminé? Yariarko, oui, non, en fait, dans le premier paragraphe, on parle du soutien que l'on veut fournir à la sécurité et la stabilité des fonctions de YANA. Joseph Aladef, ah, merci, oui, j'ai trouvé. Paul Wilson prend la parole. Je pense que c'est un bon document. Et je voudrais procéder à publier ce qu'on a. Un principe général qu'on a mis en noir sur blanc, mais on pourra publier une version mise à jour de la charte plus tard, c'est-à-dire on peut publier cela dès maintenant et puis mettre à jour notre charte sur Internet un peu plus tard. Yariarko, oui, je pense que c'est une bonne idée. Donc si vous me donnez quelques jours pour faire mes vérifications, on pourra publier ce document d'ici un mois. Bien, merci, dit Paul Wilson. Daniel? C'est Yariarko qui parle. Daniel Carambert, vous levez la main? Vous voulez prendre la parole? Daniel Carambert prend la parole. Ma suggestion était de consacrer une semaine aux commentaires. Au lieu de n'avoir du temps que jusqu'à la fin de cette semaine. On vient de voir cette nouvelle version de la charte et donc, bien que je suis d'accord avec le fait qu'on devrait publier la charte dès que possible, on devrait peut-être avoir un peu plus de temps pour la lire. Oui, c'est possible, dit Yariarko. Adela Klogan prend la parole. Pour reprendre ce qu'a dit Daniel, on pourrait peut-être inaugurer une période de commentaires parallèle. On fera nos commentaires pour avoir l'occasion donc d'apporter nos commentaires, nos remarques en suffisamment de temps. Donc si quelqu'un doit faire un commentaire, il peut soulever ce point-là sur la liste de diffusion afin qu'on ne consacre pas trop de temps de notre appel à cette question. Oui, ce sera encore une autre période de commentaires à publier sur la page. En tout cas, si on voit qu'on ne peut pas accepter la version qui a été publiée, on peut toujours soulever nos commentaires. Alyssa Cooper prend la parole. Il faut qu'on avance, autrement on ne va pas pouvoir finir avec notre ordre du jour complet. Serait-il raisonnable de remettre cette discussion à la liste de diffusion? Yari Arco, oui, certainement. Alyssa Cooper, bien, merci Yari de votre travail. Pour pouvoir arriver à la fin d'appel, je pense qu'on devrait maintenant discuter les questions du secrétariat et la déclaration du FGI, pour le FGI d'abord, parce qu'on n'a pas énormément de temps. Merci. Adélaïde Pogam prend la parole. Merci Alyssa, j'essaierai d'être bref. Il faut que l'on voit d'abord qu'est-ce qu'on doit discuter, avec quoi on devrait procéder. Il me semble qu'on est parvenu à un certain niveau d'accord à Londres pour pouvoir aborder cette question du secrétariat. On reçoit des fonds de la CAN. Et on a également discuté la possibilité d'avoir un secrétariat indépendant, de sous-traiter notre secrétariat. À partir des différentes discussions que nous avons maintenues sur la liste de diffusion, on a identifié une nécessité d'avoir des sous-traitants indépendants pour former notre secrétariat. Donc, l'ICANN va engager un sous-traitant qui s'occupera d'intégrer ce secrétariat indépendant. Voilà ce qui nous préoccupait par rapport au processus. Il faut qu'on travaille rapidement, qu'on agisse rapidement pour pouvoir avancer. Il y a eu des commentaires sur le moment auquel l'ICANN décidera d'intégrer ce secrétariat ou les exigences de ce processus et le processus de sélection. Il a fallu qu'on se mette d'accord sur le fait qu'il s'agit d'un facteur critique pour les différentes unités constitutives. Donc il faut qu'on s'assure que ce processus soit entamé dès que possible. La première question était si on voulait avoir un secrétariat indépendant, contraté ou engagé par la CAN, ou si la CAN devait intégrer ce secrétariat et le déléguer au ICG. On a des discussions concernant ces questions-là sur ce document. Et donc, je suis prêt à prendre vos commentaires. Je vois que Voss lève la main. Puis Mohamed. Russ Bundy prend la parole, comme je l'ai dit sur la liste de diffusion. Je pense qu'on devrait choisir un secrétariat indépendant, et pour cela, bien sûr, il va falloir que l'on suive nos processus commerciaux, les processus d'achat et d'embauche habituels de la CAN. Oui, merci Ross, dit Mohamed. Maintenant, quelqu'un d'autre prend la parole. Oui, je pense qu'on devrait être fondé par la CAN. Mais ma question porte sur les calendriers, sur les délais. A-t-on une idée de la durée de ce processus? De combien de temps ça pourrait prendre, suivant les procédures habituelles de la CAN? Adélaïde Logan prend la parole. Je n'ai pas la procédure de la CAN détaillée, mais on a suggéré sur la liste que ça pourrait prendre un bon moment. Le secrétariat devrait être, la liste de, en tout cas de personnes nommées pour le secrétariat devrait être disponible à la fin du mois. Donc on va suivre le processus de la CAN. Qui prendra combien de temps? Alice Jensen prend la parole. Y a-t-il une question spécifique à laquelle vous voulez que je réponde, Adèle? Adèle Akpogan, oui. On se demande combien de temps ça prendrait de suivre les processus de la CAN depuis la sélection au nommement. Alice Jensen, on ne pourrait pas vraiment identifier un calendrier spécifique, mais on devrait voir combien de personnes devraient intégrer ce secrétariat, quels seraient les candidats, éviter cela, demander les contributions des partis intéressés au processus de sélection, etc. Maintenant, pour ce qui est du calendrier spécifique dont vous avez besoin de la part du personnel, on pourrait bien le préparer si vous voulez.
Adiel Akplogo en micro. Oui, merci. Est-ce qu'on parle d'un mois pour tout ce processus? Pour le RPF, peut-être qu'on peut prendre le temps de constituer cette RRP. Bien, Adiel, ce qui a été souligné dans le mail, ce sont les questions spécifiques sur lesquelles on doit se pencher, y compris le fait d'assurer un financement pour les conditions exigées dans le RRP, etc. Donc, le point identifié dans la section devrait être les fonctions du secrétariat qui sont distinctes de l'ICANN. Et ça, ça doit être couvert. Et par rapport à l'ICG, il faut parvenir à un accord par rapport à ce calendrier. Le processus en cours et les personnes qui sont susceptibles d'être intéressées par le fait de participer au processus d'identification transparent en vue de la sélection. Adiel au micro. Oui, je pense que par rapport à la sélection et à la transparence, il y a déjà eu des suggestions dans les mails échangés. Et on va les prendre en considération. Par rapport à la publication du RP, ce sera effectivement l'aspect le plus important. Il faut également voir le fait que toute personne qui sera à même d'accomplir cette tâche sera sélectionnée d'entrée de jeu. Alissa, vous aviez un commentaire à faire? Oui, Alissa au micro. Je suis tout à fait d'accord par rapport à ce qui a été dit, par rapport aux sous-traitants indépendants, au fait de les trouver. Et je crois qu'il y a un grand soutien au sein du groupe pour cela. Je pense qu'il faudrait maintenant avancer là-dessus. Et je serais tout à fait d'accord pour constituer un petit groupe par rapport à ce RFP. Je pourrais en faire partie d'ailleurs. Il faut que ce soit, que cela nous permette d'avancer. Je ne pense pas que ce soit nécessaire d'avoir tout le consensus de l'ICG sur toutes les questions pour décider de créer telle ou telle chose. On peut tout à fait constituer des sous-groupes sur telle ou telle question, faire une recommandation, expliquer pourquoi on fait cette recommandation et travailler de cette manière. Adienne au micro, oui, tout à fait d'accord. Nous avons une manière d'avancer donc là-dessus. Nous avons donc des sous-traitants indépendants qui seront engagés en suivant le processus de l'ICANN habituel. Donc avançons par rapport à ce RFP. Et je suis tout à fait d'accord pour constituer un petit sous-groupe pour travailler sur ce processus de sélection. Daniel? Oui, Daniel au micro, je souhaitais intervenir. Daniel Karenberg, j'ai une préoccupation par rapport au fait que ça va prendre plus de temps que prévu. Ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait une planification, un calendrier réaliste. Donc on propose de faire ceci, cela. Et je vois dans les échanges de mails qu'il y a plusieurs personnes qui sont en faveur pour avancer de cette manière. Donc, ce que je demande, c'est qu'aussi vite que possible, on ait une estimation réaliste du temps que cela va nous prendre. Adiel au micro. Alors, Daniel, ça nous renvoie à la question de la CAN, parce que si vous allez utiliser le processus de l'ICANN, ça va dépendre de la réponse que nous donne le personnel de l'ICANN. Une fois qu'on aura constitué ce RFP, on va suivre le processus de l'ICANN. Je ne sais pas si cela va se produire dans moins d'un mois, si ça c'est réaliste ou pas, d'ici la fin du mois de septembre. Mais parallèlement, on peut continuer à faire appel au personnel de l'ICANN. Adiel, puis-je poser une question qui serait très utile? C'est de savoir de combien de temps vont disposer les RFP pour fournir une réponse. Étant donné qu'on parle de calendrier et des différents éléments à prendre en considération, alors effectivement, j'ai besoin d'un calendrier précis pour vous donner l'information spécifique que vous demandez. Adiel au micro, je pense qu'on peut produire un RFP hausser un micro. Je ne sais pas si c'est une question d'audio, mais on demande à ce qu'il y ait un délai qui soit fixé dans la liste de diffusion mail, qu'on définisse clairement ce qu'il faut faire et qu'on poursuive par mail la discussion de savoir ce qu'on fait là-dessus. Je crois qu'il n'y a pas suffisamment de gens qui sont intéressés par cette question du secrétariat indépendant. Donc on devrait maintenant poursuivre cette conversation par échange de mails. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, pas de problème, dit Adiel. Merci beaucoup, Adiel. J'aimerais passer maintenant la parole à Joe, qui va nous parler de la déclaration du GF. Puis, on va parler du RFP. Donc, Joe, je vous donne la parole. Merci, Alissa. Il y a eu un panel à l'IGF sur la transition des fonctions de supervision des fonctions de l'IANA. Un certain nombre d'entre nous ont participé à ce panel. Il semblerait qu'il serait bon de lire une déclaration qui constituerait un bilan de la situation actuelle et un document pertinent par rapport à la création de ce groupe, la manière dont il a été constitué. Donc ce que j'ai essayé de faire en produisant ce projet de document, et ce projet de document ne doit en aucun cas être considéré comme un document final, c'est de reprendre ce qui a été dit. J'ai repris certains éléments de la charte pour définir ce dont nous parlons. J'ai essayé de réunir certains des éléments du RFP au niveau le plus technique possible pour voir dans quel domaine nous cherchions une orientation, des conseils. J'ai également parlé de la question de la transparence et j'ai souligné dans la charte les procédures opérationnelles avec la version la plus récente de la charte. Et enfin, j'ai parlé d'autres domaines qui comprennent la sélection du président, des vice-présidents, les procédures de vote. Et d'ailleurs, sur ces questions, je ne sais pas où on va en être par rapport à la finalisation de ces questions. Donc, je ne peux pas trop m'avancer et je veux être sûre que j'ai bien repris toutes les discussions. Je veux également m'assurer qu'il y a une discussion entre la communauté opérationnelle et les autres parties prenantes plus générales, que ces deux parties prenantes parlent ensemble. Donc, c'est ce que j'ai essayé de reprendre dans ce projet de document. Je crois également que dans la mesure où on va pouvoir fixer un calendrier, ça va être très utile pour les gens qui essaient de participer. Et on devrait également reconnaître le fait que pour certains, ça va être un problème de savoir comment participer à notre réunion à l'IGF, parce que certains vont certainement quitter la réunion le jour où on va se réunir. Donc il faut s'assurer que nous enregistrons cette réunion parce que certains vont être en déplacement à ce moment-là. Donc voilà un petit peu l'idée de ce projet de document. Je ne sais pas si c'est quelque chose qu'il faut lire ou bien si c'est un document qu'on peut diffuser. On n'a pas encore pris contact avec les organisateurs pour voir quel est le rôle formel qu'on peut jouer. On n'a pas non plus nommé de porte-parole pour ce document, mais il est important de disposer d'un document à l'IGF. Oui, vous voulez continuer ou vous voulez qu'on organise une queue d'intervenants ou une liste d'intervenants qui souhaitent prendre la parole maintenant? Oui, merci. Milton Müller au micro. Merci de cet effort, Joe. Je crois toutefois... En fait, j'adopterais pour ma part une approche beaucoup moins formelle. Ce qu'on va faire à l'IGF, d'après moi, c'est, je l'espère, d'introduire et de décrire notre RFP, que j'espère nous aurons fini d'ici là, puis convaincre les communautés de se joindre à nous en leur expliquant notre approche au développement des propositions. Il s'agirait plus d'une explication sous forme de présentation PowerPoint plutôt que d'une déclaration formelle de ce type, parce que si une personne lit un document, je ne sais pas comment on va réellement transmettre ce message d'interaction. Joe Micro, Milton, oui, pour répondre à votre question, je ne sais pas si on va avoir l'occasion de le faire. Donc j'ai rédigé un projet de document, en sachant que les points de discussion vont être beaucoup plus spécifiques, clairs et limités. Mais je n'ai pas encore de confirmation de savoir si nous aurons l'occasion d'avoir une présentation formelle pour ce panel. Donc je pensais qu'il serait bon d'avoir un document qu'on pourrait utiliser comme base pour faire comprendre aux gens ce que nous faisons. Je n'ai pas préparé de présentation PowerPoint parce que je n'aime pas ça. Mais peut-être qu'avec une présentation PowerPoint, on n'aurait pas suffisamment de questions de fond qui sont traitées. Oui, peut-être que il faudrait envisager ça pour les 10 prochains jours. Et encore une fois, s'agissant d'une présentation PowerPoint, pourquoi je le suggère? Parce que si vous affichez une présentation PowerPoint, cela peut susciter un débat, en tout cas le fait qu'une discussion est en cours. Jean-Jacques Subrena, vous souhaitez intervenir? Jean-Jacques, au micro. Merci Alicia. J'aimerais revenir par rapport sur ce qu'a dit Milton à l'instant. Je crois que tout d'abord, on devrait s'assurer qu'il existe la possibilité à l'IGF de faire cette présentation. Deuxièmement, effectivement, ça a l'air un peu formel. Merci, Joe, de cette préparation, mais je crois qu'il faudrait faire quelque chose d'un peu plus attrayant. Et enfin, attention par rapport à la rédaction, par rapport à la composition de l'ICG, qu'il ne faut pas scinder. Je sais que la rédaction que vous avez utilisée au début de votre document est relativement bien équilibrée, mais j'aimerais qu'elle soit poursuivie dans le reste du document. Qu'il s'agisse d'une présentation PowerPoint ou d'une intervention par rapport à des notes, peu importe. Allez, c'est un micro. Oui, Daniel? Daniel Karenberg au micro. Oui, merci. Je suis d'accord avec Milton. Cette présentation doit être plus concise et aller droit au but. On doit toucher toutes les communautés. Donc il faut être très clair sur le fait que la participation dans le développement des propositions doit toucher l'ensemble de la communauté. Et je crois que ce qu'il faut faire dans ce domaine, c'est également de faire état de notre charte et de dire que nous avons cette dynamique et cette volonté dans le groupe. Également parler du RFP et des propositions finales qui vont être développées et présentées à la communauté. Je pense que ça doit être clairement dit. Et je crois qu'il faut être aussi clair que possible dans la rédaction. Puis-je rappeler aux gens que la communauté IGF n'est pas forcément une communauté bien au fait de ce que fait l'ICANN. Il y a un certain nombre de personnes qui ne s'y connaissent pas vraiment, qui sont curieuses simplement. Donc si nous décidons d'avoir un document outre la présentation, alors ce document doit contenir des explications par rapport à l'origine de notre groupe pour expliquer bien aux gens ce dont ils retournent. Oui, pour revenir sur ce que vous venez de dire, je voulais dire que on a peut-être besoin de deux documents. Un document de référence de l'ICG qui permettra de transmettre ce message de l'ICG lors de l'IGF. Donc, merci Joe, c'est un document de référence qu'on peut utiliser. Mais ensuite, je crois que l'une des choses importantes pour un événement tel que l'IGF, c'est le RFP. Quel sera le processus que la communauté opérationnelle va utiliser? Et on devrait saisir cette occasion pour permettre à la communauté opérationnelle de savoir ce qui est planifié et dans quelle mesure nous allons prendre en considération leur contribution. Parce qu'on va nous poser des questions par rapport à la manière dont ils peuvent participer et nous aider. Donc, il faudrait avoir quelque chose ouvert aux commentaires, par exemple, pour pouvoir interagir de manière spécifique sur le RSP et sur le calendrier de tout ce processus. Parce qu'on nous pose beaucoup de questions sur le calendrier. Quel est le calendrier que l'ICG va suivre pour cela? Parce que le comité attend ce calendrier pour organiser ses travaux. Donc par rapport au RSP, il faudrait avoir un document publié avant l'IGF. Ça serait très utile. Et ensuite, avoir ce document de référence qui pourrait être publié avant les débats. Alice au micro, donc Joe, sachant qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, on a eu beaucoup de contributions là-dessus, on devrait se concentrer sur le RFP, etc., tout ce qui a été dit. D'ici la réunion de l'IGF, je crois que le plan de travail a été fixé. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Bien. Est-ce que vous souhaitez qu'on parle du RFP avant de parler du IGF? On va y consacrer 5 minutes avant de faire un résumé et passer au point suivant.